Question d'islam par Ghalib Bensheir. Encore une fois, nous parlons aujourd'hui du djihad, non pas pour nous appesantir sur la notion de la collusion de la violence et du sacré, mais d'un point de vue étymologique et lexicographique avec un philologue, un historien, président de la Société d'études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes, la CELEFA. C'est Roland Lafitte. Roland Lafitte, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous vous intéressez à la vie des mots, à leur usage, à leur évolution. Et nous nous sommes dit qu'il faut peut-être comprendre la charge émotionnelle sous-tendue par le vocable djihad. On le traduit abusivement par « guerre sainte ». Il y a deux acceptions totalement antagoniques. D'un côté, c'est l'épouvante, la terreur absolue. C'est même la violence intrinsèque à la religion islamique qui est contenue dans cette charge du mot djihad. Et de l'autre, vous dites que c'est plutôt une très haute vertu. Alors, avant tout, on verra tout à l'heure l'étymologie du mot, pourquoi est-ce que c'est un non-sens total de traduire par « guerre sainte ». Et j'ai été frappé, mais nous le verrons tout au long de l'émission ensemble, que déjà le mot existait dans la période anté-islamique, donc ce n'est pas coranique, et puis dans le Coran selon les phases mécoises et médinoises, avec toutes les occurrences du mot et par la suite, l'histoire, dans le corpus second que sont les aphorismes du prophète, la polémologie qui a été construite par la suite dans des traités à partir de 2 à 3 siècles plus tard, et l'usage qui en a été fait dans les luttes anticoloniales et surtout maintenant par le terrorisme abject. Voilà, j'ai résumé en
vaste
gros
programme, oui.
un peu l'idée de l'émission avec vous sur le mot « djihad ».
Oui, alors je voulais dire, vous avez bien fait de partir de djihad comme charia, ce sont les symboles de l'exécration.
Ou fatwa,
oui. L'exécration qui personnifie la religion et la civilisation islamique. Alors, il concentre tous les préjugés habituels, comme vous l'avez dit. C'est religion violente, politique et monolithique. Et dans le temps et dans l'espace, qui traverse l'espace comme un vaisseau invariant, bon voilà. En fait, quelque chose qui devrait mettre la puce à l'oreille, pour montrer qu'on est dans une différence imaginaire radicale, c'est qu'au Moyen-Orient, Proche-Orient, djihad est un prénom prisé par des chrétiens. Et j'invite les auditeurs qui ne seraient pas convaincus à aller chercher la liste des médecins à Paris qui s'appellent djihad. Beaucoup viennent de Syrie, il y en a une quantité impressionnante. Si le mot était tellement, jetait tellement l'opprobre dans leur esprit, ils auraient changé de nom, puisqu'on a le droit de nom ou de prénom lorsqu'on devient français. Alors effectivement, djihad ne se réduit ni à la notion de guerre, ni même de guerre de défense, et à plus forte raison de guerre de conquête ou de guerre sainte, nous aurons l'occasion d'y venir. Et contrairement à l'affirmation de nombreux orientalistes et islamologues, il faut le dire malheureusement, il n'est pas avant tout une notion guerrière, mais d'abord une notion spirituelle. Et c'est la seule qui est présente dans le Coran, je tiens à affirmer. Alors, je dirais que ce travail, c'est un travail qui a été fait par la CELEFA, avec plusieurs personnes. On a passé 5 ou 6 séances, où on a étudié en long.
Nous disons aux auditeurs que la CELEFA, oui, est la Société d'études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes.
Donc nous faisons une séance par mois, mais nous avons consacré 5 ou 6 séances à ce terme dans l'histoire, dans la religion, dans l'évolution, dans les courants de l'islam, les courants juridiques, et aujourd'hui dans la littérature arabe, et puis ici, naturellement, chez les islamologues. Alors, c'est une question très difficile parce qu'il s'agit d'interprétation. Quoi qu'on en pense, il y a toujours une interprétation du Coran. Dès les premiers temps, le Coran n'apparaît pas brut, il apparaît interprété. Et donc, il a donné lieu à quantité de variations de courants théologiques, juridiques, etc. Et même de sous-courants. Et L'étude que nous avons faite est une étude d'abord linguistique. Alors, il y a un sens qui peut être approché d'un point de vue, étant donné la morphologie du mot et la sémantique, en relation avec l'histoire de la langue. Et ceci dans l'histoire, dans le contexte historique. Donc, évidemment, il va y avoir des interprétations, il y a des disputes sur l'interprétation. Mais on peut quand même essayer de tracer un fil qui n'a rien à voir avec les préjugés dont on va établir. On peut établir qu'il s'agit vraiment de préjugés qui s'y sont démentis par cette étude linguistique et, disons, plus généralement anthropologique.
Roland Lafitte, alors commençons par le commencement qui consiste à comprendre l'étymologie elle-même. Le mot étant arabe, la racine est trilitaire, donc jahada. À quoi ça renvoie?
Alors, c'est la troisième forme en arabe, pour être un peu technique. C'est une forme augmentative, disons. C'est-à-dire que si le mot correspond à effort, nous sommes là, dans cette forme, dans l'idée d'un effort sur, non seulement un effort sur soi, mais un effort démultiplié.
Un effort intense.
Un accord intense, un zèle, si on veut. Et les premières fois que le mot apparaît, pas dans la forme jihad, qui est une... Alors, il faudra parler de la forme jihad lui-même, qui est une forme verbale ou nominale, ce qui n'est pas la même chose. Le mot apparaît dans ses formes verbales, dans la poésie pré-islamique, notamment chez Nabira.
Le génie.
Nabira. Voilà. Qui déclamait à Al-Hira, et puis chez les Rassanides. Oui. Mais surtout à Al-Hira. Au moins un siècle avant l'islam, et où le mot apparaît dans une idée de compétition, de rivalité sportive, si on veut. Voilà. Donc on est tout de suite dans cette idée de rivalité où chacun fait le plus gros effort sur lui-même pour gagner, dans un combat. Si vous voulez, mais un combat sportif ici. C'est le premier sens qui apparaît dans la langue, pour ce qu'on sait.
Alors maintenant, on revient à la révélation coranique elle-même. Vous distinguez, comme tout le monde, les deux phases, la phase mécoise et la phase médinoise. Mais dans la totalité du corpus coranique, vous dites qu'il y a 35 occurrences.
Oui.
Dont vous mettez deux de côté. D'ailleurs, il faut savoir pourquoi. Et vous travaillez sur 33.
Oui, je travaille sur 33 parce que il y en a deux qui sont simplement l'idée poussée à, c'est-à-dire faire un effort sur l'autre, donc ce n'est pas du tout le sens qui nous intéresse.
Et alors nous avons 33 occurrences, oui, du mot djihad, du verbe
du
jahada.
Du verbe, enfin
disons de la racine qu'on a un peu triturée.
De la racine, oui.
Que nous retrouvons. Peu dans la partie mécoise et davantage dans la partie médinoise.
Alors, quel est l'intérêt de la distinction? C'est que la partie mécoise est une partie qui n'est pas guerrière.
Donc qui est spirituelle.
Qui est purement spirituelle.
Et qui appelle à la miséricorde, à l'amour, à la bonté.
Et qui appelle à la dévotion, qui appelle à un effort de piété et à toutes les qualités du musulman qui sont dans le registre non guerrier.
Pardon, Roland Lafitte, je ne suis pas sûr que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente, mais le fait de dire qu'on n'en a que 33 ou 35 sur 6236 versets coraniques montre l'indigence, en tout cas l'aspect très limité du mot, des occurrences.
Bien sûr.
Mais il n'y aurait eu qu'un seul qui provoque des drames, il faudrait aussi l'étudier.
D'accord, et puis on va être encore plus minimaliste, puisque le mot jihad lui-même n'apparaît que 4 fois.
Oui.
Et pas au sens d'un nom, mais dans un sens verbal. Je vais donner un exemple en français, par exemple. Prenons le mot récréation. Il a 2 sens. Ça peut être l'action de se récréer. Là, je suis dans le domaine verbal, si on veut. Et le résultat, on est dans le domaine nominal. Or, comme l'a montré Jacqueline Chabi, qui est passée sur cette antenne récemment, et là, je confirme tout à fait, dans le Coran, le verbe et sa forme, jihad, n'apparaît jamais dans l'univers nominal, mais toujours dans l'univers verbal. Donc il ne s'agit jamais d'un acte, comme on dit guerre, c'est pas possible. Ce n'est pas possible d'un point de vue morphologique. C'est important comme argument.
Bien, alors continuons maintenant l'étude elle-même, j'allais dire d'un point de vue morphologique, si je puis dire, la partie mécoise étant plus spirituelle, plus celle de la dévotion, de l'adoration. Donc là, il n'y a aucun corollaire d'effort et encore moins guerrier. Il se trouve que dans la période médinoise, il y a des hostilités, des combats, des batailles. Et là, le mot est utilisé, associé à un autre qui parle de combat. Donc là, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir tenir avec courage ces temps de belligérance.
On va essayer de développer la chose. Le jihad, dans toutes ses formes, verbales, dans le Coran, il appartient à une formule beaucoup plus complète. C'est jihad, fi sabilillah, sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire le combat sur le chemin de Dieu,
ou l'effort sur le chemin de Dieu.
L'effort, on peut dire combat, parce que même dans le christianisme, on utilise la lutte ou le combat, les mots, dans un effort spirituel. Donc on peut très bien l'utiliser. Bi amwalihi wa anfusihi, c'est-à-dire corps et biens, avec ses biens et son corps et sa personne. Alors on a voulu trouver dans cette formule le fait qu'on était dans la guerre. Eh bien non, parce que lorsque dans une des occurrences que nous avons à Médine, ça apparaît dans un texte qui est réputé spirituel. Donc ce n'est pas forcément la guerre. Et d'ailleurs, les gens qui se défendaient, qui voulaient être musulmans, qui suivaient le prophète à la Mecque, eh bien, ils risquaient leurs biens et leurs personnes. Et pas simplement les hommes et les combattants, mais les épouses et les enfants. Donc c'est un terme qu'on ne peut pas du tout lier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à Médine, on est dans un effort guerrier. Contre les Mécois, contre les Quraïchites.
Les polythéistes
Quraïchites. Alors, et la guerre? Alors, le lien, il est là. La guerre, elle exige, tout le monde sait, tout le monde le dira, qu'elle exige le maximum de vertu. Le maximum de courage, de don de soi. Et donc il est normal, l'appel du prophète là, Mohammed, c'est d'appeler les gens à combattre, même de façon guerrière, en mettant tout leur cœur et toute leur vertu, le jihad.
Oui.
Donc c'est la conduite vertueuse qui doit accompagner, à plus forte raison pendant la guerre, les musulmans. C'est ça le lien.
Oui, ça me rappelle cette idée que si on a un droit à la guerre, il faudrait qu'il y ait un droit dans la guerre. Un jus ad bellum et un jus in bello.
Il y aura les théorisations après, bien sûr, on pourra, bien sûr. Mais là, on est dans le... Donc, jamais dans le Coran, ça n'apparaît autrement qu'une conduite vertueuse. D'ailleurs, ce qui est complètement ignoré des orientalistes et des islamologues, tous ceux que j'ai lus. Mais si ces gens, qui par ailleurs ont pu faire un bon travail, étaient allés lire Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun, dans un chapitre sur le jihad, justement, c'est formidable. Il parle de la guerre, qui d'ailleurs, dans le Coran, n'est jamais appelée sous le nom de jihad, mais razwa, marazi, etc.
C'est-à-dire que le sens sémantique relatif à la guerre utilise tous les mots qui parlent de belligérance et de guerre, mais jamais jihad.
Jamais. Mais le terme pour les guerres à l'époque du Coran, c'est marazi. Et ça a duré pendant 2 siècles. Et même les guerres de conquête n'ont jamais été appelées on n'a jamais invoqué le jihad, mais les futuh. Ça n'a rien à voir.
Forme de conquête, forme d'ouverture.
Et un monsieur qui a fait une étude il y a quelques années, qui s'appelle Michael Bonin, explique ça très bien, et c'est un livre que je recommande. Parce qu'il explique historiquement les notions. Alors, je voudrais revenir sur Ibn Khaldoun,
Oui, je vous en prie. Je vous ai interrompu.
Alors, Ibn Khaldoun, il distingue 4 sortes de guerres. 2, pour lui, qui ne sont pas préconisées par la charia, c'est-à-dire la loi islamique.
Ou la loi tout court.
La loi tout court, mais il utilise le terme dans le texte, charia. Fi charia. C'est les guerres, les querelles entre tribus, les querelles, et celles qui opposent des peuples pour le pillage. Donc les querelles dynastiques, si on veut, ou intestines, et le pillage. Ça, c'est prohibé par la charia, par la loi. Et deux qui sont permises, disons. Pas obligatoires, permises, c'est autre chose. Qui peuvent être justifiées, validées par la loi. Elles sont deux. La défense de la communauté et les guerres contre les dissidents. Bon, alors ça, on pourrait discuter.
Ibn Khaldoun, c'est 1332-1406, oui, c'est l'homme du 14e siècle.
Oui, donc les dissidences. Mais c'est pas tout. Il suffit pas de dire c'est une guerre de défense de la communauté. Encore faut-il qu'elle réponde à deux critères. Et c'est là qu'on apprend quelque chose. Ces deux critères, c'est qu'il faut respecter le jihad. Alors, on avait le jihad qui était une guerre. La guerre pour la défense de la communauté, qu'il appelle dans son nom propre jihad. Et là, qui doivent respecter deux qualités, le jihad et adl, la justice. Donc, on y a bien le jihad, là, comme vertu. Alors, c'est on voit bien là la coexistence de deux notions qui ne sont pas la même. Alors, cette notion de jihad comme vertu, c'est celle qui est dans le Coran et l'unique qui est dans le Coran.
D'accord. Revenons donc un peu dans le cours du temps. On passe, d'abord, il y a beaucoup de choses à revoir dans le corpus dit second, c'est-à-dire celui des maximes, des aphorismes, des propos, des dits du prophète. Là, la notion du djihad est-elle corrélée au combat ou y a-t-il cette notion, peut-être même apocryphe, qu'on est revenu du petit djihad pour le grand djihad salvateur?
Non, on n'en parle pas, c'est après. Mais ce qui apparaît, c'est qu'à la fin du 8e siècle, apparaît la notion de djihad comme guerre, comme phénomène guerrier. Alors ce qui est curieux, c'est que vers 780, le premier dictionnaire arabe, Al-Khalil, n'en parle pas. Il donne même pas le mot. Et il n'évoque même pas le verbe « jahada » dans un sens religieux. Alors comme on le veut aujourd'hui, hein, la notion de « jahada » dans le Coran, c'est étonnant qu'un musulman grand linguiste de la fin du 8e siècle n'ait pas eu accès à cette notion.
Oui, compositeur de dictionnaire et voilà. qui oublie une entrée comme ça.
Oui, c'est pas possible. Bon, donc c'est la preuve, c'est la confirmation de ce que je disais. Alors, c'est à cette époque qu'apparaît le jihad comme nom, comme substantif, on pourrait dire. Pas comme masdar, c'est-à-dire non verbal, mais comme substantif, qui désigne une sorte de guerre qu'on a retrouvée chez Braloun. Bien. Alors, ça apparaît ici, pourquoi ? Ça apparaît dans un contexte où on n'est plus dans la conquête, mais on est dans la défense. C'est l'époque où l'imam Shafi'i, justement, devant la montée des musulmans à la frontière pour aller faire le ribat ou pour aller faire le jihad, comme on dit, eh bien, il explique qu'il y a des conditions. C'est pas individuel, ça doit être collectif. C'est une lutte collective. C'est une lutte qui doit être décidée par l'autorité politique et validée par les oulémas. Donc, l'imam Shafi'i donne les conditions du jihad. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que Malik ben Anas, qui est le père, on pourrait dire, du courant qui a lieu au Maghreb, dit c'est pas en courant à la frontière qu'on est un bon musulman. C'est par la prière. Donc il s'oppose même à l'idée que le jihad soit le ribat, il parle, mais c'est à l'époque.
On reviendra, Roland, c'est la même chose. Aux notions du fortin, d'aller
oui,
dans
c'est,
un ribat.
Oui, c'est une autre notion.
France Culture, Question d'Islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui, nous essayons de comprendre le djihad dans tous ses états, dans ses états linguistiques, philologiques, lexicographiques et étymologiques. Et nous avons la chance d'avoir le président de la Société d'études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes, Roland Lafitte, qui, avec beaucoup de froideur d'esprit, de neutralité, de rigueur académique, de volonté de comprendre, nous essayons ensemble donc de cerner l'essence au pluriel, l'essence en deux mots, du djihad. Vous nous avez dit, Roland Lafitte, que deux qui ont donné leur, qui ont initié deux des grandes écoles juridiques dans le contexte islamique, Malik ibn Anas, mort en 796, et Shafi'i, lui, mort en 820, se sont intéressés à cette notion du djihad. Le premier nous dit que c'est plus une question de prière, une question d'adoration. Le second parle d'une affaire qui échoua au détenteur de l'ordre et sur avis des oulémas.
Il met des conditions. Et le mot apparaît. Donc, alors, pendant, ce qui est intéressant, c'est que pendant deux siècles, nous avons un certain nombre de livres qu'on appelle les Kutub al-Jihad, Siyar al-Jihad, qu'on veut présenter comme des traités. Ce ne sont pas des traités. Ce sont des recueils de hadiths, des classifications, qui correspondent aux préceptes qu'on a lus dans le Coran et dans le hadith concernant ce que vous avez appelé le Jus Belli. Ça correspond exactement à ça. Que dit le Coran, que disent le hadith concernant la conduite de la guerre? Là, jihad apparaît évidemment comme un mot dans la guerre. Mais ce n'est pas fondamental. Je voulais donner un exemple. À l'époque, vous avez un... Je voulais noter quand même un auteur comme Shaybani, qui fait justement un Kitab al-Siyar.
Une sorte de curricula, c'est une biographie, des biographies.
Voilà, voilà. Et sur 192 paragraphes, il n'y en a que 15 qui évoquent le mot jihad. Donc c'est pas... Et c'est le droit de la guerre qui défend. Donc, c'est-à-dire ce qu'on met en avant, là, c'est la conduite vertueuse qu'il doit y avoir pendant la guerre, mais parmi vos ennemis, le mot est passé sur la guerre. Voilà ce qui se passe. Il faut, alors, dans les grands recueils de hadith du 9e siècle, chez par exemple Bukhari, chez Muslim, etc., on a évidemment, là encore, des kutub al-jihad. C'est-à-dire, on regroupe ensemble les hadiths. Point. Pour avoir un traité, qu'est-ce que c'est qu'un traité, un vrai traité? Alors, le mot kitab se traduit en français comme on veut. Hein. En fait, c'est un écrit.
Oui.
Avant d'être un traité. Pour en faire un traité au sens propre du terme, il faut que je définisse l'objectif. Il faut que je définisse les notions. Et il faut que je donne un corpus.
C'est-à-dire que déjà, le fait de dire traité, il vaut mieux dire simplement recueil.
C'est des recueils. C'est des recueils. En fait, c'est pas plus que des recueils de hadiths classés. Alors, quand est-ce qu'on a un traité où j'ai vraiment une théorie? Il y en a deux qui sont archi connus de tout le monde. C'est celui de Ibn Rushd, pas l'Averroès connu, mais son grand-père, Al-Jadd.
L'ancien, on aurait dit.
L'ancien, voilà. Alors, il parle, c'est intéressant parce que justement, il distingue quatre catégories de jihad. Il distingue le jihad avec le cœur, avec la langue, avec l'épée, etc. Oui. Bon, c'est une terminologie qui sera retenue par tout le monde.
Et avec la langue, c'est quand il dit le fait de pouvoir dire une parole juste devant un roi autocrate, devant un despote.
Il faut montrer le courage.
Voilà. C'est le courage, c'est ça le djihad par la langue.
Bilisan. Alors, la question, il y a une gradation, si on veut. En situation hostile, que fait le musulman, d'après ce qu'on comprend? Il y a le jihad bisayf. Il peut se battre pour défendre la communauté. On donne les conditions.
Safe étant l'épée.
On donne les conditions. Et S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fortifie son cœur. Enfin, il le fait par la langue, par la parole. Donc il combat par la parole. Et s'il ne peut pas combattre par la parole, il fortifie son cœur. C'est l'essence de la conduite du musulman, qui est à peu près, je veux dire, reconnu par tout le monde. Alors, un des grands textes qu'on montre aujourd'hui, comme théorie du djihad, c'est Ibn Qayyim, qui est un disciple de Ibn Taymiyyah, qui est présenté comme le plus hanbalite, le plus rigoureux, le plus traditionaliste, etc. Sur 11 cas de djihad, il n'y en a qu'un qui est guerrier. Pour montrer un peu le regard d'aujourd'hui sur ce courant traditionaliste, comment il est déformé.
Roland Lafitte, on verra ça à la fin de l'émission, comment les choses effectivement se sont inversées par une tragique ironie du sort. Là, on est encore dans comment finalement la notion de guerre sainte est-elle venue et comment, encore une fois, on a chargé le mot djihad alors que, y compris dans le Coran, y compris dans la langue arabe, ce qui renvoie à la guerre, c'est plutôt le qital, c'est-à-dire le fait de tuer, d'être tué, etc.
C'est même pas le sens premier, mais enfin, c'est un mot comme le combattant, c'est muqatil, le qital, c'est le combat. Et on a voulu justement, je dis certains auteurs, linguistes, ont voulu trouver dans qital, dans le Coran, une justification que le djihad était guerrier, puisqu'il ne voit dans qital qu'un sens guerrier. Or, dans le Coran, vous avez au moins 5 cas de qital qui sont métaphoriques. Un bel exemple, c'est un verset où le prophète parle des prophètes qui l'ont précédé. Ils ont combattu. Jahadou. Mais on connaît des prophètes qui ont combattu, il y en a beaucoup. Donc c'est métaphorique. Ni Adam, ni Noé, ni qui a combattu à part David et Salomon. Donc c'est la preuve là que c'est une interprétation qui a contre-histoire, a contre-sens du texte.
Bien, poursuivons donc. Alors, là, Ibn Taymiyyah, lui qui est mort en gros vers 1326-1328, c'est son disciple Ibn Qayyim al-Jawziya qui en parle encore. Mais là, on est toujours dans un sens contenu. Et
absolument.
Pourtant, on est après le contact dû déjà aux croisades.
Là, on est dans une époque, déjà chez Al-Ghazali, hein, on a déjà ça, le siècle précédent. On a les croisades, il y a un effort où les théologiens musulmans considèrent que pour mener la défense de la communauté par le djihad, il faut un effort mental. Et c'est là qu'il y a toute la théorisation, je veux dire la systématisation d'une théorie du djihad dans ses aspects spirituels et c'est-à-dire réarmement, il parle de réarmement mental. Et avant d'être guerrier, le djihad, il est pour eux réarmement mental, c'est-à-dire valorisation d'une conduite vertueuse, le sens coranique du terme.
Alors, je vous ai interrompu tout à l'heure quand vous parliez de ribat. Mmh. Ça, c'est quoi? C'est le petit fortin dans lequel le soufi ou l'équivalent d'un moine soldat y réside?
Oui, ça, c'est un sens partiel, la chose. Le ribat, c'est avant tout...
Qui donnera la ville de Rabat.
Hein. Les Almoravides aussi. Le ribat, je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations qui sont pas justes, mais sur Sélefa, on a fait un travail aussi, on a consacré un travail à ribat à travers les textes, etc. Le ribat, c'est pas... On a l'image, la plupart des orientalistes du 19e siècle ont donné l'image de ce fortin où il y a des moines soldats. Non, c'est pas exactement ça. Si vous prenez les Almoravides... Al-Murabitoun. Ce sont des gens qui sont dans une sorte de monastère et qui sortent du monastère pour aller faire de la propagation de leur croyance et ils le font par l'épée, pas simplement par le prêche, mais par l'épée. Mais on a chez par exemple, dans les voyageurs al-Bakri, par exemple, quand ils voyagent au Maroc, on voit bien que son ribat, c'est pas du tout quelque chose de guerrier. C'est avant tout un monastère. Un monastère où on vient prier.
Oui, mais il y a à chaque fois une collusion, mais ça ce sont les hommes, entre la violence et le sacré.
Oui, là, parce que là, on est dans le ribat. Alors, ces monastères qui existaient déjà, ils deviennent guerriers parce qu'ils se mettent aux frontières. Et que là, on appelle, c'est ce que fait Chaffey, hein, quand il dit les gens qui montent à la frontière, on dit qu'ils montent au ribat. Donc c'est pour défendre la communauté. Ce qui n'empêche pas certaines incursions en territoire adverse, comme dans toute action militaire.
Oui, voilà. Ou du moins les hommes étant les hommes avec leur faiblesse d'homme, oui, ils veulent être des monarques, ils peuvent peut-être utiliser ces notions-là pour l'expansion.
On peut le dévier, mais le sens, si on prend par exemple les textes de, par exemple, Ibn Rushd, par exemple.
Averroès, toujours Averroès l'Ancien.
Non, ça c'est Averroès le Jeune. Il a fait tout un traité quand même du djihad. Et il explique bien que pour la grande majorité des musulmans, dans les différents courants juridiques, théologiques et juridiques, le djihad est défensif. Alors, il peut y avoir des gens qui l'utilisent autrement. Notamment, je prendrai le cas de ces courants que j'ai qualifiés de mahdistes ou d'imamistes, si vous voulez, qui partent, comme les Almoravides d'ailleurs, qui partent d'une position religieuse pour défendre l'islam,
notamment en attaquant.
Notamment, c'est le cas en Afrique, par exemple, tous les États qu'on a vus au XIXe siècle. Et je vois, par exemple, j'ai remarqué que dans, par exemple, Ibn Battuta, quand il passe sur la côte est de l'Afrique, il dit que les Arabes, là, font le djihad contre les païens, contre les koufars. Oui. C'est un abus, c'est une justification abusive, déjà.
Les koufars étant les mécréants.
Les mécréants.
Oui.
Qu'on a traduit par cafre en français d'ailleurs.
et qui en réalité étymologiquement c'est couvrir.
Oui, alors ça c'est bien sûr, c'est autre chose.
C'est couvrir et sous-entendre
qui se cache.
Qu'on a couvert ou caché la vérité de Dieu.
Donc, voilà, c'est les dénégateurs en gros. Oui.
Roland Lafitte, je suis intrigué comme d'autres du glissement facile entre la notion du djihad, dont nous parlons là calmement, on verra peut-être que tout à l'heure, ça ne serait pas aussi calme que ça, eu égard au détournement, mais comment se fait-il que le djihad a été traduit, et toujours abusivement, par Guerre Sainte ?
Alors, je voudrais donner une anecdote déjà pour Guerre Sainte, parce que Guizot, qui est connu quand même, historien français, un grand historien qui a été ministre des Affaires étrangères et premier ministre de fait dans les années 1840, il a traduit l'appel de Clermont d'Urbain II.
Oui.
Il met deux fois Guerre Sainte dedans. Si on va regarder le texte, ça y est pas. Urbain II appelle les chrétiens à aller au secours des chrétiens de Jérusalem. Alors, cette démarche d'aller au secours des chrétiens, ça devient la Guerre Sainte. Non, cette Guerre Sainte, c'est un terme de propagande qui est surtout développé, je pense, à cette époque, au début du 19e. Jusque-là, on utilisait...
La guerre juste.
Oui, mais on disait que, par exemple, la guerre contre l'Empire Ottoman, c'est la guerre la plus noble, la plus sainte. Il y avait tout un tas d'épithètes, oui. Mais c'était pas un concept.
On parlait en espagnol de la guerra justa, la guerre juste.
Mais la théorisation chrétienne, c'est la guerre juste. Et la théorisation laïque, on pourrait dire, déjà Grotius, après le traité de Westphalie en 1648, et puis au XIXe siècle, c'est la guerre juste. La guerre juste, depuis donc qui s'est développée à travers toute la pensée, tout le droit canon, et puis la pensée laïque avec les Lumières, c'est une guerre de défense. C'est avant tout une guerre de défense. Ça n'a pas toujours été appliqué. Mais c'est l'idéologie de la guerre de défense, guerre juste.
Donc Roland Lafitte, la notion de guerre sainte est récente dans l'histoire.
Oui.
Et c'est finalement un abus quand on dit guerre sainte. Mais... et on l'a projeté sur les ennemis qui auraient eux aussi leur guerre sainte, et ça serait le djihad.
Voilà, prenons l'Algérie, tout de suite. Alors, il est évident qu'un bon musulman, Abdelkader, ou du moins son père, Mohieddine, pour résister aux Français, il le fait au nom de la défense de la communauté, donc en termes musulmans, ça s'appelle le djihad. Et on demande l'aval des oulamas, notamment, je crois que je sais pas si c'est Meknès ou Fès, mais peu importe. Mais c'est fait dans les règles. Et l'émir est déclaré émir du djihad. Bon.
C'est-à-dire pour se fortifier, pour avoir les valeurs spirituelles et morales, de résister.
De résister, et c'est la résistance de la communauté. Alors, les Français ont tout de suite traduit par guerre sainte. Djihad, guerre sainte. Bugeaud le premier, tout le monde. Alors, la guerre sainte, c'était l'indice que les Algériens ne combattaient pas les Français pour des raisons de défense nationale ou de ça, mais pour des raisons de fanatisme religieux. Voilà. C'est comme ça que ça a été mis. Donc le mot est rentré à ce moment-là, s'est développé dans la langue française. Dès qu'on parle de musulmans, on parle de guerre sainte, alors que les Français, naturellement, ils n'ont jamais mené une guerre sainte. C'était la guerre pour la civilisation, c'est bien connu.
Alors ce qui est curieux, c'est que cette notion de guerre sainte sera collée systématiquement à djihad, et pourtant l'épithète sainte n'est jamais collée au mot guerre, ni dans le Coran, ni dans les hadiths,
ça n'existe
ailleurs.
Pas.
Et alors, ça n'existe pas.
Comme le soulève Bernard Lewis, qui n'est pas un islamophile distingué, il dit, c'est curieux, jamais le mot de guerre sainte n'existe dans la littérature musulmane, dans la littérature islamique.
Le but de cette émission et d'autres, c'est, en tout cas moins, de rectifier des sens, parce que... Ne pas savoir nommer les choses, ça ajoutera encore au malheur du monde, selon la formule consacrée.
Oui.
Et ben, on essaiera au moins d'en minimiser un peu en comprenant l'évolution des sens. Ne pensez-vous pas, Roland Lafitte, que, hélas, le sens étant perdu à jamais, autant ne plus l'utiliser? Je parle du djihad. Où il faut peut-être faire un effort considérable, auquel cas un autre djihad, pour qu'on le recouvre.
Il faut faire un djihad linguistique. Alors, je dirais là-dessus, c'est impossible. Je donne un exemple. L'OAS s'est dénommé résistance. Si parce que l'OAS appelait résistance quelque chose qui était abominable, il faut supprimer le mot résistance, qui est un mot noble en français, on se perd. Même chose dans l'imaginaire arabe, pas simplement arabe et musulman, mais c'est pas une simple question de religion, puisque même les chrétiens utilisent le mot. Je vous signale quand même, je signale à nos auditeurs, puisque vous savez, que les luttes anticoloniales se sont menées au nom du djihad. D'ailleurs, les gens s'appelaient des moujahidines. Même en Syrie et au Liban, on parlait de djihad. Donc c'est un mot valorisant. C'est un mot qui est resté valorisant, et je prends le roi du Maroc, par exemple, qui au moment de l'indépendance dit « Nous sortons du petit djihad pour rentrer dans le grand djihad ». Ce sont ces termes.
Le fameux aphorisme du prophète dont j'ai dit tout à l'heure, est-il apocryphe ou pas, mais
et il l'avait prononcé. Et là qui est sécularisé. Parce que le djihad anticolonial, pas les résistances à la conquête, mais les luttes d'indépendance se sont menées au nom d'un djihad qui, lui, était laïcisé, en quelque sorte, sécularisé. Et ce mot reste. Bourguiba s'appelait le Mujahid al-Akbar.
Le combattant suprême.
Le combattant suprême.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous essayons de triturer le mot djihad presque dans tous ses sens. Et grâce à vous, qui êtes président de la Société d'études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes, ben, nous essayons en tout cas de voir ce glissement de sens et même une inversion de signification. Et ça serait l'objet de cette troisième partie de notre entretien. Alors, comment se fait-il que finalement le djihad est devenu un corollaire d'épouvante, de terreur, d'abomination, et certains n'osent même pas en parler? Une maman, une mère qui a prénommé son fils djihad a été plus que brocardée.
Elle a perdu un procès, c'était à Dijon, début de l'année. Le CICF m'avait demandé d'intervenir pour donner des arguments, d'ailleurs.
Et la justice souveraine, d'aucuns disent que le jugement était tout à fait recevable et qu'on avait raison de lui interdire.
Ça portait préjudice à l'enfant. Mais dans une ambiance où djihad est devenu une idée et remplie d'opprobre, alors que pas simplement chez un musulman, mais un arabe, c'est au contraire chargé de valeur. Donc là, il y a un choc d'imaginaire, et je pense que la tâche ici, c'est pas de supprimer le mot, mais c'est d'expliquer. C'est d'expliquer qu'il faut sortir de cette limitation. On a fini par appeler djihad toute guerre, faite par des musulmans. Par des musulmans qui seraient forcément une guerre religieuse, une guerre de fanatisme, etc. Je donne un exemple outrancier. C'est celui des ceux qui se disent salafistes djihadistes. Quand ils parlent de la guerre contre les États, tout l'archipel des États musulmans qui sont pour eux des renégats, etc., ils ne parlent même pas de djihad. Ils parlent de résistance internationale. Or, ça a été traduit en français par djihad global. Vous voyez un peu là.
Oui, mais il y a le djihad islamique. Ah, c'est là, djihad... c'est quoi? C'est une prise d'otage à la fois de deux mots, oui. Le djihad alors, en tant que tel, et islamique aussi, alors, comme État islamique.
Alors là, justement, prenons le djihad islamique au sens, c'est une organisation palestinienne. Le mot étant sécularisé, quand ce groupe, issu des frères musulmans d'ailleurs, parle du djihad, pour lui, la lutte contre la colonisation israélienne, c'est un djihad, dans le sens traditionnel du mot, mais le mot est tellement sécularisé qu'il est obligé d'ajouter islamique.
Donc, ce serait pléonastique, en quelque sorte.
C'est en termes, comment dire...
spirituels ou religieux ou...
En termes religieux, c'est pléonastique, mais le mot a été tellement sécularisé et sorti de la religion qu'il a fallu réintroduire islamique.
Parce que les non-musulmans arabes qui connaissent sa charge première, eux, déjà, entendent par djihad cet effort de fortifier le cœur pour pouvoir résister.
Mais même l'enfant qui va à l'école, on lui dit qu'il faut... Il faut jihada, hein. Il faut qu'il fasse l'effort, il faut qu'il étudie. On utilise le mot jihada.
Oui, c'est pour persévérer et étudier.
Persévérer et étudier.
Ça me renvoie pour dire que l'ijtihad, quand on ajoute le T, donc c'est une autre forme, l'effort devient intellectuel, cérébral, mental, un effort de recherche.
D'interprétation. Voilà, oui, donc ces mots sont valorisants.
Et donc, auquel cas, quand on fait de la recherche et de l'interprétation, ce n'est pas de guerre, et encore moins sainte, qu'on effectue.
Pas du tout, non, c'est là. Alors, le glissement, il apparaît dans la rupture, elle apparaît dans le passage de la lutte contre l'impérialisme, je pense. La lutte contre toute la lutte anticoloniale où le djihad était valorisé. Et dans la suite, on a chez les frères musulmans, la lutte contre Israël, c'est un djihad, qui, en termes anticolonial, a un sens. Mais on lui donne une valeur religieuse pour le passage à la lutte contre les États renégats, les États du monde musulman lui-même. Et ça, c'est les groupes qui se sont appelés Salafia Jihadia, et qui est un néologisme Jihadia en arabe, parce que ça n'existe pas.
Oui, comme Islamawiyoun, qui renvoie aux islamistes.
Voilà, c'est les frères musulmans qui ont créé le mot. Oui.
Donc on est dans des innovations blâmables, dans des extensions c'est moi qui ajoute blâmable.
J'ai entendu.
Et dans des extensions de sens, avec cette notion de salafisme djihadiste qui finalement c'est très récent même dans l'histoire.
C'est très récent.
Dans la psyché.
C'est un courant idéologique. Ça fait appel à une lutte idéologique menée par des courants, évidemment, qui ont une idéologie politico-religieuse. C'est récent.
Et donc, tout comme l'OAS qui a usurpé la notion ou l'appellation de résistance, vous dites que les terroristes, les extrémistes et ces salafistes djihadistes ont usurpé et pris en otage le mot. Il faut simplement qu'ils le restituent qu'ils le libèrent et qu'il faut revenir à son sens premier.
Oui, parce que je pense qu'on leur rend un sacré service en les désignant comme ils demandent qu'on les désigne. De par un terme valorisant.
Oui, mais...
C'est pas facile.
J'entends, et nous nous en parlons. Mais comment allez-vous faire pour remonter tout cela, notamment auprès et des relayeurs d'opinion et des intellectuels musulmans eux-mêmes?
Alors, vous me provoquez.
Je provoque le président.
La CDFA, il y a 2 ans ou 3, a écrit une lettre qui s'appelle « Lettre à un ami journaliste ». Qui a été publié notamment dans Mediapart, où on expliquait ça. Arrêtez d'appeler sans distinction ces gens djihadistes, vous leur rendez le plus fier service, il faut s'y prendre autrement. Et le fait que le travail qui a été fait sur les mots d'islam dans le cadre de la CDFA a eu un relais aujourd'hui journalistique par Orient 21, qui a ouvert une rubrique mots d'islam où il y a un mot djihad, il y a djihadiste, etc., fait que j'ai remarqué que chez quelques journalistes, les plus curieux, on n'utilise pas le mot de la même manière. C'est-à-dire, on se dit, tiens, là, il y a un problème quand même. Faisons attention. Ils sont rares, mais c'est un ferment. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut arriver à créer chez ces gens, de la même manière qu'à l'époque, les Français n'ont pas pris au mot le mot « résistance de l'OS », il faut pas qu'ils prennent au mot le mot « djihad » des pseudo-djihadistes. C'est pas facile.
Et c'est plus grave encore, à la fois pour État dit islamique, ce proto-État ou ce pseudo-État, mais il y a malheureusement aussi des républiques dites islamiques et qui n'ont d'islamique que le fait d'interdire peut-être aux hommes de porter la cravate et d'imposer le voile aux femmes.
Oui, bien sûr. Alors le mot, enfin tous les mots sont... Il y a un problème, c'est pas simplement un problème chez les Européens, chez les Arabes aussi, mais on utilise, par exemple, je vois qu'au Liban, on utilise plus takfiriste que djihadiste.
Takfiriste, c'est celui qui considère qu'autrui est un renégat et un mécréant.
Qui est excommunicateur. Oui. Bon, je pense que c'est le mot le plus fréquent qui est utilisé dans la presse libanaise, c'est takfiriste. Pas djihadiste, on les prend pas au mot. Il y a des gens qui s'appellent djihad et qui sont en train d'écrire ces lignes.
Oui. Auquel cas, vous pensez qu'on reviendra au sens premier, donc le mot djihad recouvrera sa signification première.
Je pense que dans l'univers mental de la civilisation islamique, c'est-à-dire des Arabes, des musulmans, etc., des pays, le mot n'a pas perdu. Je pense qu'il ne perdra pas, parce que c'est une valeur forte. Mais le travail ici, de faire connaître le différentiel d'imaginaire, c'est de l'expliquer.
Oui. C'est vrai qu'il y a le prénom féminin Jahida aussi.
Bien sûr.
Et elle peut être merveilleuse, belle, gracieuse et intelligente.
Et on ne traduit pas par djihadiste.
Roland Lafitte, nous approchons vraiment du terme de notre émission. Ce que vous faites comme un travail considérable de déconstruction, en tout cas des sens et des mots, à la Société d'études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes, la CELEFA, ce n'est pas que pour le mot djihad. Peut-être que si vous nous faites l'amitié de revenir une autre fois, pour d'autres mots.
On a commencé par les mots brûlants. Donc le mot islam, on a commencé. Qui ne veut pas dire
soumission. D'aucune manière.
Dans le champ sémantique, c'est peut-être c'est un... ou soumission au sens métaphysique, au sens mystique, comme l'utilisait Lamennais, par exemple.
Et encore, ça serait l'ist-islam et non pas l'islam.
Et encore. Donc, alors, il y a eu ça, il y a eu charia. On a consacré d'énormes, beaucoup de travail sur charia, la loi islamique. On a travaillé aussi sur, shahid.
Le témoin.
Ici, on traduit...
Martyr.
Martyr. Alors, je me rappelle, pour montrer un journal algérien dans les années 80, un accident de car, je ne sais pas où, il y a 10 shahids et 30 blessés. C'est quoi ? Donc, il faut expliquer ces choses-là.
Bien sûr.
Bon, alors, quelques mots brûlants, ainsi, ont été abordés.
Oui. Pour ce dernier mot-là de Shahid, le témoin, le martyr est aussi le témoin en grec.
Bien sûr.
Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci beaucoup, cher Roland Lafitte, de nous avoir expliqué tout cela. Et vous faites un travail considérable à la Société d'études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes. Chers amis auditeurs, c'était question d'islam. Nous avons essayé de comprendre le mot djihad dans tous ses états. Philologique et linguistique. Nous avons essayé de cerner son champ sémantique. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jean-Michel Bernot et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. Thank you.
beaucoup.